Radio Okapi.
À la présentation du journal, Pascal Masserica.
Okapi.
À la une de l'actualité, les chefs de la police et les ministres de la sécurité de l'Afrique centrale en concertation des 5 jours ici à Kinshasa. Au menu, voir comment éradiquer le trafic et la circulation d'armes, des êtres humains et la drogue dans la région. Pour parler de Kampala, Kinshasa récuse la facilitation ougandaise. Pendant 7 ans, à Kampala, une liste des dirigeants politiques du M23 non éligibles à l'intégration politique circule dans cette ville. Et puis, il n'y a pas de bâtiment pour garder les prisonniers à Yangambi. S'inquiète le président du tribunal de grande instance alors que la tenue des premiers procès sur les dossiers judiciaires sont programmés ce mois d'octobre. Bonsoir à tous. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la 14e session ordinaire du comité des chefs de police et les ministres de la sécurité d'Afrique centrale. Leur concertation durera 5 jours en vue d'adopter une stratégie commune de lutte contre la criminalité transfrontalière et régionale et renforcer aussi la coopération policière. Le reportage de Jeff Ngo.
L'enjeu de ce forum est la gestion de la criminalité transfrontalière. Le comité des chefs de police d'Afrique centrale, CCPAC, entend éradiquer les différentes formes de crimes telles que le trafic et la circulation d'armes à feu, le trafic d'êtres humains, de la drogue, le terrorisme et la cybercriminalité. Il faut débattre et orienter la politique de sécurité régionale face à tous ces défis majeurs. Pour Charles Bissengimana, la commissaire générale de la police congolaise, la RDC occupe une position géostratégique déterminante dans cette lutte parce que les criminalités internationales et nationales comme les violences sexuelles et le gangstérisme ont pour cible ces frontières qu'elles partagent avec 9 voisins. Le commissaire général invite tous les participants à ne pas lésiner sur les moyens à consentir pour renforcer la coopération transfrontalière sur l'extradition des criminels de police à police en contournant les procédures judiciaires jugées parfois lentes. Ainsi, le forum se focalise sur 5 thématiques, notamment la réunion des sous-comités techniques, celle de la commission technique des directeurs de la police judiciaire. Le CCPAC a été créé en 1997 pour définir une politique sous-régionale de lutte contre la criminalité.
Venons-en maintenant pour parler de Kampala. Pendant que la liste de 78 commandants du M23 non éligibles à l'intégration au FRDC publiée par le gouvernement de Kinshasa bloque en ce moment les négociations, on apprend qu'une autre liste circulerait déjà dans la capitale ougandaise. Cette liste concerne des responsables politiques de la rébellion non éligibles à une quelconque intégration politique en RDC. Selon notre source à Munyonyo en Ouganda, le président de la rébellion, Bertrand Bisimwa, figurerait sur cette liste noire. Explication d'Innocent Olenga.
La liste ne fait pas de distinguo entre l'aile Sultani Makenga et l'aile Bosco Ntaganda. C'est ainsi qu'on retrouve sur cette liste des personnes comme Jean-Marie Urunyiga, président du FUD du M23, François Ruchogoza, ancien ministre provincial de la justice du Nord Kivu et ancien chef de la délégation du M23 à Kampala, et Mashagiro Nzei, député exclu de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Roger Lumbala, député national déchu du Kasaï Oriental qui s'est dit invité du M23 à Kampala, figure aussi sur cette liste des personnes que le gouvernement ne voudrait pas voir réintégrer la sphère politique congolaise. Serait épargné de cette non-éligibilité René Abandi, actuel chef de la délégation du M23 à Kampala, Kambasu Ngeve, négociateur principal du M23, ou encore Sendugu Museveni, chargé de la politique intérieure du mouvement rebelle. Il faut dire que cette liste intervient au moment où la première, qui concerne 78 commandants du M23 non-éligibles à l'intégration dans les FRDC, pose problème. Les facilitateurs ougandais l'auraient réduite à 43, une réduction qui n'enchanterait pas la délégation gouvernementale.
Et puis, un calme relatif est observé ces jours-ci dans l'engroupement de Lubérike et Diana en territoire de Walikale au Nord Kivu. Et c'est depuis le déploiement des FRDC dans certaines localités et la présence de la MONUSCO à Kachébéré, à Bunyampouli et à Kibwa, par exemple, la population qui a commencé à retourner sa donne aux activités champêtres. Les écoles et les commerces ont également repris. Toutefois, la population locale vit dans la peur à cause des groupes armés qui se disputent le contrôle de la zone. Et pour en parler, retrouvons tout de suite Bernardine Diambou qui revient de la contrée.
À Kachébéré, dans le groupement des Lubériki en secteur de Wanyanga, la population vague à ses occupations champêtres. Les écoles et les petits commerces, les centres de santé de Matchumbi ont repris. Cette population est rassurée par la présence de la MONUSCO et les déploiements de quelques éléments FRDC. Toutefois, elle craint l'activisme des groupes armés qui se disputent le contrôle de la zone. Même constat à Binyampouli et à Kibwa dans le groupement d'Iana. où au moins 30% restent contrôlés par les FRDC et la PNC. C'est comme nous dit ici le chef de groupement de Yana, Séraphin Ngoulou.
Il y a les FRDC qui est ici, PNC qui est ici jusqu'à Luvungi. Mais de l'autre côté, ce sont les groupes armés qui sont là. La population va qui a leurs activités. Il y a ceux qui cultivent, il y a les Ambila qui font leurs activités. Et même ceux qui sont à Kibou, à Kalonge, Mera, jusqu'à Luvungi, même à Toamakuru, ils cultivent, ils font leurs activités malgré l'insécurité.
Les chefs locaux rencontrés sur terrain ont émis le vœu de voir l'armée régulière et la police nationale congolaise d'être plus effectives et présentes pour mieux sécuriser la population de cette contrée longtemps victime des affres de la guerre. Pour l'instant, la population place sa confiance à la MONUSCO qui a quelques bases dans le secteur. Si celle-ci venait à être démantelée, la population menace de quitter à son tour. Parce que, dit-elle, l'autorité de l'État n'est pas encore restaurée dans cette zone. Goma, Bernardine Diambo, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le manque de prisons pour garder une centaine de détenus à Yangambi. Yangambi, c'est une cité située à 100 km à l'ouest de Kisangani, dans la province orientale. Révélation faite dimanche après-midi par le président du tribunal de grande instance de Yangambi. Claude Chimanga précise que près de 200 détenus de la Tchopo sont transférés du tribunal de grande instance de Kisangani à celui de Yangambi. Il annonce aussi pour octobre courant la tenue des premiers procès judiciaires sur ces dossiers. Joseph Bassaï de la radio Bondeko revient sur la nécessité qu'il y a de monter une prison à Yangambi.
Le tribunal de grande instance de Yangambi doit commencer à juger les détenus sur place à Yangambi des mois après son installation. Selon le président de cette juridiction, près de 200 dossiers d'être prévenus transférés du tribunal de grande instance de Kisangani à celui de Yangambi. Parmi ces dossiers, 143 détenus actuellement en prison à Kisangani, dont une vingtaine d'enfants en conflit avec la loi. Le tribunal s'est plaint du manque d'une prison à Yangambi pour garder les détenus en cas de condamnation. Les premiers procès sont prévus au cours de ce mois d'octobre. Les juges notent le président du tribunal des grandes instances pourront organiser les audiences foraines à la prison de Kisangani. D'après Claude Timanga, c'est pour éviter les risques d'évasion en cas de déplacement des détenus à Yangambi. Pour les organisations de défense des droits humains du district de la Tchopo, le problème des infrastructures demeure le principal défi des instances judiciaires en cours d'installation au chef-lieu du district, tout comme dans les territoires. Le bureau de la société civile du district de la Tchopo demande au gouvernement et aux partenaires de construire des prisons et les bureaux des magistrats pour permettre à ces juridictions de bien travailler. Isangi Joseph Bassaï, Radio Bondeko pour Radio Okapi.
Nous revoici dans la capitale congolaise où la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient de mettre en place un cadre de concertation avec différentes organisations de la société civile. Une première rencontre a eu lieu aujourd'hui dans la capitale. Selon le président de cet organe, Apollinaire Malumalumu Olongo, l'objectif est d'organiser prochainement des élections crédibles et de s'assurer de la régularité du cycle électoral en RDC. Le compte-rendu d'Agathe Mpona Yelema qui a assisté à cette rencontre.
En convoquant cette grande rencontre de deux jours, la CENI a pensé développer un partenariat stratégique avec la société civile dans l'ensemble, mais aussi en fonction des spécificités de chacune. L'abbé Malumalu, président de la CENI, a donc annoncé vouloir établir différents cadres de concertation avec les organisations d'éducation civique et d'observation électorale, avec les confessions religieuses, avec les organisations impliquées dans la promotion des droits humains, avec les médias, avec les personnes vivant avec handicap, avec les organisations qui travaillent sur la question du genre, ainsi de suite. Tout ceci en vue de la crédibilité, mais aussi de la régularité du cycle électoral en RDC. Parmi les participants à cette réunion, l'ONG dénommée Maison des électeurs, selon son coordonnateur qui salue ce rapprochement initié par l'administration électorale, la réussite du processus électoral et de la responsabilité de tout le monde. Maître Sylvain Lumumbaya souhaite notamment que la société civile soit consultée de façon permanente dans le cadre notamment de la révision prochaine de la loi électorale avant son dépôt au Parlement.
Et pour finir, sachez que ce 7 octobre 2013, c'est la journée internationale du travail décent. Et à l'occasion, l'Union fait la force, une plateforme des syndicats, des travailleurs, a fait ce matin dans la capitale un état des lieux dans ce domaine, en RDC. C'était dans la salle de spectacle de Notre-Dame de Fatima. Selon les organisateurs, le travail décent accuse un déficit criant en République démocratique du Congo. Situation reconnue du reste par le ministre de la fonction publique qui a été présent à cette manifestation. C'était sous les yeux de Jacques-Yves Molima.
Le travail décent, qui fait référence au travail productif que les hommes peuvent exercer dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine, est loin d'être une réalité en RDC. Selon le président de la plateforme UFF, les droits fondamentaux de l'homme au travail reconnus par leur statut et le code du travail sont constamment violés. Guy Koukou en donne un exemple.
Depuis longtemps, notre gouvernement ne porte pas attention à cette question et a ouvert le chapitre à l'exploitation généralisée des travailleurs congolais. Quand vous allez dans les alimentations, dans les boutiques, vous trouverez beaucoup des opérateurs, mais qui n'assurent pas un travail décent. Et la majorité de ces travailleurs n'ont même pas un contrat du travail.
Une situation que déplore également le ministre de la Fonction publique. Pour Jean-Claude Kubala, l'idéal n'est pas seulement d'avoir un travail décent, il faut le créer et surtout le sécuriser dans les temps. Jean-Claude Kubala.
Il faudrait, et dans l'administration et dans le secteur privé, sensibiliser l'employeur à pouvoir motiver l'agent pour qu'il puisse tirer de lui le maximum possible pour le développement de ce pays.
Notons que pour améliorer leurs conditions de travail, les syndicalistes ont formulé à l'occasion quelques recommandations à l'endroit du gouvernement.
Il est 18h10 à Kinshasa et c'est la fin de votre journal. Merci d'avoir écouté. Merci à Martin Sebou-Djangwe et Thérèse Kankou qui m'ont aidé à fabriquer ce produit.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.